Catherine Gaudreau analyse l'actualité de la Mauricie au 106.9 Mauricie. Que la Mauricie se
lève. Salut Charles-Antoine.
Salut Catherine.
Charles-Antoine, le Canadien a un nouveau défenseur. Bon, ils avaient acquis Edmondson de la Caroline. On se disait, OK, on va voir. Il devient joueur autonome sans compensation. J'imagine s'ils vont le chercher, c'est parce qu'ils ont l'intention de le signer. Ça a été fait, finalement. C'est quel genre de joueur? Moi, c'est pas quelqu'un que je connaissais tant que ça. Présente-le nous donc un peu.
Ben, faut dire qu'il a gagné la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis l'an passé, tout comme le nouveau deuxième gardien du Canadien, Jake Allen, a été laissé de côté parfois dans la finale de la Coupe Stanley, je veux quand même le souligner, mais c'est un gros joueur, 6'4", plus près de 220 livres. Clairement, on va avoir quatre gros joueurs sur le top 4 défensif du Canadien. Là, je fais allusion à Weber, Chara, Petrie et maintenant Edmondson, 27 ans. Ce n'est pas un joueur qui va vous faire lever de votre siège, et là, probablement du siège à la maison, parce que je pense pas que les sièges au Centre Bell vont être remplis, mais bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais et l'analyse de ce joueur a été faite cette semaine, mais moi, ce que je trouve très intéressant, et je vais l'appeler une signature COVID. Pourquoi? Puisque tu as fait allusion à la transaction. Donc, lorsqu'on a transigé pour ses droits, on a donc mis le pied dans la porte pour négocier avec lui avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes qui aura lieu au début du mois d'octobre. Oui. Et là, on le sait, là, les finances de la LNH sont grandement touchées, vont l'être à moyen-long terme. Le cap salarial va stagner, si bien qu'on n'aura plus beaucoup de marge de manœuvre pour négocier. Et lorsque le marché des joueurs autonomes s'ouvre, pour moi, il y a un des plus gros dangers, c'est-à-dire la surenchère. Le meilleur défenseur disponible cette journée-là n'est pas le meilleur défenseur de la Ligue, mais souvent, il devient payé comme un des meilleurs, simplement par l'offre et la demande. Donc, là, au lieu d'avoir à négocier et à payer trop cher au début du mois d'octobre, ben, on est en mesure de faire l'acquisition de quelqu'un juste avant et lui consentir un contrat adéquat, 4 ans, 3,5 millions, parce que là, Marc Bergevin ne compétitionnait pas avec les autres directeurs généraux. Oui. Il avait simplement à lui dire, regarde, on pense que tu vaux tel montant. Donc, dans une époque où il faudra être très serré sur la scène, si tu me prêtes de l'expression, je trouve que Marc Bergevin a bien manœuvré en faisant une transaction quelques semaines avant la date butoir.
OK, mais donc, est-ce que je comprends ton analyse que si on n'avait pas été dans la période qu'on connaît actuellement, donc dans une période normale avec une période des joueurs autonomes qui s'en vient, est-ce que ça veut dire qu'il aurait testé le marché?
Oui, ben exactement. Son contrat venait à échéance, donc c'est pourquoi il a embarqué dans la danse quelques semaines avant que ce contrat devienne à échéance. Et donc, la négociation s'est faite en amont, au lieu d'être faite la journée où tout le monde devient disponible et que là, c'est une course à celui qui va offrir le plus gros contrat.
OK. Charles-Antoine, la semaine dernière, on discutait ensemble du sport scolaire, bon, de la reprise du sport hors études. On s'est prononcé, toi et moi. Moi, je n'étais pas convaincu. Je trouve que à un certain niveau, ça va vite un petit peu, surtout avec bon ce qui se passe actuellement. Mais c'est pas facile à suivre, là, parce que bon, le sport universitaire, c'est non. Le collégial, scolaire, oui, mais ça dépend. Puis peut-être que non. C'est-tu moins ou c'est pas facile à suivre?
Ben, j'ai repensé à ton point la semaine passée. Tu te souviens, je te disais, ouais, mais il faut quand même prioriser la santé mentale des jeunes, leur développement. Oui, c'est pas idéal, mais en même temps, c'est tellement important pour eux. Mais là, on est en train d'avoir le résultat opposé et je suis en train de me rallier de ton côté. Moi, j'étais 100% pour laisser les jeunes jouer. Mais là, en ce moment, c'est tellement compliqué à suivre. Imaginez là, si des adultes, des directions d'école, des entraîneurs, des directeurs des sports ont de la difficulté à suivre les règles du gouvernement. Imaginez pour des jeunes. Tu sais, créer de l'instabilité comme on le fait en ce moment, c'est probablement plus difficile pour les jeunes que de ne pas les laisser jouer. Parce que là, bon, tu viens de le mentionner, là, non universitaire, oui collégial. Est-ce que le virus fait la différence entre deux niveaux sportifs? Évidemment non. Oui, au civil, mais avec des limites dans le scolaire. Je veux dire, là, quand on sort de l'école, le virus traverse la rue avec le jeune. Et en plus, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, si dans une école, et là, je ne parle même pas d'une organisation sportive scolaire, là, dans une école, il y a un cas, mais toutes les équipes sportives sont arrêtées. Si la région devient orange, plus de sport de contact. Donc, un jeudi, le jeune peut croire avoir un match le vendredi, et là, le vendredi matin, il apprend que le match, ça va être tellement chaotique que finalement, ben, je me rends compte que en mettant tellement de petits alinéas, de petites parenthèses, de petits règlements, on est en train de brimer les jeunes parce que d'un jour à l'autre, là, ils seront toujours en déchirement. Puis ça, finalement, ben, je trouve que ça va être très, très, très négatif.
Oui, là-dessus, oui. J'ai bien hâte de voir, mais bon, on
verra. Imagine le jeune qui pose la question à son entraîneur ou à ses parents. Le parent ne peut même pas lui expliquer.
Mais non, c'est ça.
Ça fait perdre confiance en le jeune et les institutions. T'sais, habituellement, exact. Les parents, bon, on rouspète contre le gouvernement, blablabla. Mais un jeune, habituellement, est assez naïf politiquement. Et là, pour une de ses premières fois, un lien direct avec la politique, et clairement, c'est pas un lien de force, là.
Non, pas vraiment. On se rend compte, Jean-Antoine, aussi, là, que là, bon, dépendamment des sports, à ce qui a été relancé, il y en a que c'est, bon, évidemment, sans public, à huis clos. On a vu dans la NFL la semaine passée un peu de public, notamment chez les Chiefs de Kansas City. D'ailleurs, on apprend ce matin qu'il y a des cas chez des gens qui ont assisté au match. Mettons des exemples d'endroits où ça va, puis des exemples d'endroits où ça va pas pantoute.
Ben, je me suis arrêté comme partisan à analyser l'impact de l'absence des fans sur la consommation sportive aussi. Et là, c'est un petit peu individualiste parce que c'est pas une analyse de santé publique, là, c'est une analyse de partisan. Ouais. Puis tu sais, j'écoute la NFL, par exemple, la LNH, la NBA, je trouve que ça va. Je trouve que c'est pas identique, mais on dirait que j'oublie rapidement l'absence de partisans. Parce que oui, on met des bruits d'ambiance. Mais mon œil ne se dirige pas vers la foule. Mon œil ne se dirige pas vers l'absence d'ambiance. J'écoutais, par exemple, la Formule 1. Pour moi, la Formule 1, c'est égal. Je vois même pas de différence,
vrai.
Clairement, entre les deux consommations. J'écoute le Tour de France, moi, le matin, souvent. Et en France, on permet déjà, mais en même temps, un parcours de 200 km, tu peux pas mettre des clôtures là sur la longueur. Donc, il y a des partisans, il y a des gens qui sont là, qui crient. Il y en a parfois qui sautent dans le visage des cyclistes sans masque, là, ça, on va repasser, là, surtout avec ce qui se passe en ce moment en France, mais c'est particulier. Mais il y a deux sports où est-ce que j'ai beaucoup plus de difficultés à embarquer qu'à l'habitude, et c'est le tennis et le golf. C'était les US Open au tennis, on a eu des belles histoires, Shapovalov a bien fait, mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable de mettre de côté l'absence complète de partisans. Peut-être parce que c'est des sports où le momentum et la proximité de la foule est incroyable. Il y a très peu de sports où, comme au tennis et même au golf, les partisans sont à quoi? 20 pieds, 30 pieds, 40 pieds? Habituellement, dans un amphithéâtre de 20 000, 80 000 partisans dans la NFL, il y a une distance. Donc, la caméra peut... Le tennis et le golf, là, faut que je vous avoue, j'ai beaucoup de difficultés à faire fi du fait que...
Surtout le tennis,
y a rien.
Pour moi, c'est pire au tennis.
Et je suis d'accord avec toi. Parce que le golf, tu sais, jusqu'à un certain point, il y a des bruits de. C'est niaiseux ce que je veux dire, mais d'oiseaux. T'es à l'extérieur. Ça fait partie de l'expérience. C'est très silencieux, le golf. On fait une petite sieste le samedi après-midi en écoutant ça. Mais le tennis, il y a tellement de liens, de changements d'émotion dans un match, de changements de momentum. La foule qui porte un athlète ensuite se range de l'autre côté. Le US Open, j'avais l'impression que c'était des échanges. Simplement des échanges entre deux tennismen, deux tenniswomen. Donc, c'est le petit bémol que j'ai apporté sur la consommation sportive en temps de COVID.
Oui, mais c'est une bonne observation. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Hey, Charles-Antoine, on se laisse ce vendredi. Je te souhaite une belle fin de semaine, puis on se reparle vendredi prochain.
Bon week-end. Bye-bye.
Salut, toi aussi. Bye-bye. Charles-Antoine Sinotte qui est avec nous les vendredis aux alentours de 8h35, 8h40.